enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Mon thème ce matin sera que signifie pardonner. Alors vous allez me dire, mais frère, ça fait 20 ans qu'on est au Seigneur, ça fait 30 ans, ça fait 35 ans, on sait ce que signifie pardonner. Nous connaissons bien sûr les textes de l'Écriture qui nous en parlent, dont les plus importants, je cite Matthieu 6, 12, « Lorsque nous prions, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et nous savons que si nous ne pardonnons pas, notre Père qui est dans le ciel ne nous pardonne pas non plus. Jésus le dit, c'est la suite d'ailleurs de l'enseignement de cette prière. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ceci dit, il est vrai que l'Église est un endroit où on parle énormément de pardon. C'est certainement l'endroit dans notre pays où on parle le plus de pardon, et ceci régulièrement. On chante le pardon, on prie « pardonne-nous nos offenses », on prêche le pardon, c'est le cas ce matin. Lors de la Sainte-Cène, très souvent on évoque la notion du pardon avant de prendre le repas du Seigneur. Et pourtant, tant d'amertume dans l'Église. Et pourtant, tant de frustration. Et pourtant, tant de blessures non guéries. Et pourtant, tant de tensions. Et pourtant, tant de regards à la dérobade. Et pourtant, tant de discours. Discours qui ne sont pas toujours élogieux. Là, à l'endroit même où l'on prêche le pardon le plus, paradoxalement, on y trouve souvent des tensions. Souvent, on y trouve, eh bien, de l'amertume. C'est donc que nous n'avons pas forcément toujours compris ce que signifie le pardon et ce que signifie pardonner. Alors évidemment, quand je vous parle de pardon, et quand je parle de pardon ce matin, que ce soit à nous qui sommes ici, ou à mes chers internautes, je ne parle pas de ce pardon du bout des lèvres, vous savez, ce pardon qu'il nous faut donner. Je te pardonne parce que je suis chrétien. Mais je repars, et j'en ai toujours encore aussi gros sur le cœur. Je te pardonne. Mais le mal que tu m'as fait continue à me détruire comme un poison, empoisonne un homme, une femme. Je te pardonne. C'est pardon de forme, mais dont le fond est absent. Ils existent, ils sont nombreux. Je ne parle pas non plus de ce pardon que l'on vous impose, surtout à vous qui avez été victime. Combien de fois dans les églises ne dit-on pas « t'as qu'à pardonner », c'est facile ce « t'as qu'à ». Les yaka, vous les connaissez les yaka? Il y en a partout des yaka. Pasteur yaka. Yaka pardonner, c'est facile. Quand c'est pas toi qu'on a trompé. Quand c'est pas ta réputation qu'on a détruite. Quand c'est pas ta fille qu'on a violée. Quand c'est pas sur toi qu'on a répandu de mauvais bruit. Yaka pardonner, oui, yaka. Mais nous oublions de prendre en compte la souffrance de celui qui a été blessé, qui a été meurtri, yaka. Et nous rajoutons avec nos yaka encore de la culpabilité sur celui qui déjà souffre, parce qu'il a du mal, il combat, il lutte. Le pardon duquel je veux parler ce matin, et ce sera un plaidoyer pour ce pardon-là, c'est celui qui guérit les victimes du péché, les victimes des offenseurs, mais c'est également celui qui permet de sauver celui qui a péché. C'est de ce pardon que j'aimerais vous parler, de ce pardon qui, d'une part, tient compte de la souffrance de l'offensé, mais de l'autre part, permet à l'offenseur de recouvrir une nouvelle occasion de recommencer dans la droiture et la vérité. C'est ce pardon-là que je voudrais aborder avec vous ce matin. Mon premier point, c'est face au péché, deux réactions possibles. Face au péché, deux réactions possibles. Et il est vrai que ce matin, j'aimerais m'appliquer surtout à nous encourager à pardonner. Car ne confondez pas les deux, demander pardon et pardonner. Je me souviens d'un jeune homme qui était très mal dans sa peau. Son père lui faisait beaucoup de mal en lui disant toutes sortes de méchancetés. Et le jeune homme s'était appliqué à lui demander toujours pardon. Et je lui ai dit, mais tu as un problème. C'est toi la victime dans l'affaire. C'est pas à toi de demander pardon. C'est toi qui vas pouvoir accorder le pardon. Mais c'est pas à toi de demander pardon pour ce que tu n'as pas fait. J'ai une personne qui un jour est venue dans mon bureau. Elle me dit, j'exige que vous me demandiez pardon. Je lui ai dit, mais même si vous veniez sur la tête, je ne vous demanderai pas pardon pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Vous m'accusez d'une chose que je n'ai pas faite. Je peux me repentir pour tout ce que j'ai fait. Mais je ne peux pas me repentir pour ce que je n'ai pas fait. Lorsque nous pardonnons, nous faisons grâce. Lorsque nous demandons pardon, nous implorons la grâce. Que ce soit bien clair dans votre esprit dès maintenant. Face au jugement, face au péché, deux réactions possibles. Un, le jugement. Permettez-moi de revenir sur un texte des Écritures, dans Jean 8, versets 1 à 11. N'allons pas le lire maintenant, ce serait trop long. Permettez-moi simplement de le résumer. Une femme est prise en flagrant délit d'adultère. Une femme est prise en flagrant délit d'adultère. Moi, j'ai un problème avec ce flagrant délit. On n'a qu'attrapé la femme. Je ne sais pas où est passé l'homme. À moins que je ne sois pas informé, l'adultère, ça se pratique à deux. Mais bizarrement, ils n'en ont attrapé qu'une. Et ça, en flagrant délit. C'est intéressant. Ça fait partie des mystères impénétrables. Il y avait donc là manifestement une volonté d'attirer Jésus dans un piège. Alors on ne parle pas de cet amant disparu comme par enchantement, mais on ne parle pas non plus du mari de cette femme. Je ne sais pas si vous y aviez déjà réfléchi en lisant ce texte. On ne parle pas du mari, de sa souffrance, de sa frustration, de la trahison, des pleurs qui ont pu être les siens, alors que tout d'un coup, il voit sa femme livrée là à la vindicte générale. Soudain, il réalise, mais c'est ma femme. Imaginez la douleur, imaginez la souffrance. Que vont-ils faire? Eh bien voilà qu'ils jugent cette femme. Et ce matin, je dirais qu'il n'y a que deux manières de traiter le péché. On peut juger, et ils vont juger. Voyons ce que les pharisiens firent. Tout d'abord, ils l'exposèrent à l'humiliation publique. Je ne sais pas si vous voyez. Elle vient de se faire prendre, et là, elle est exposée devant tout le monde. Je me souviens un jour, le Seigneur m'avait donné une parole de connaissance qui s'adressait à une dame dans l'auditoire. Et cette parole disait, « Madame, vous êtes venue, vous êtes là pour la première fois. Cette nuit, pour la première fois, vous avez trompé votre mari. Vous venez de quitter l'endroit où vous l'avez trompé pour venir dans ce lieu. » Mais je bénis Dieu de ce que cette femme n'ait pas été livrée publiquement. Plus tard, elle est venue me voir. Elle pleurait. Ça a été pour elle sa conversion. Ça a été pour elle sa rencontre avec Dieu. Ça a été pour elle le moment où elle s'est rendue compte que Dieu sait tout. Dieu voit tout. Rien n'est caché devant lui. Mais qu'il soit béni. il ne l'a pas livré. Il ne l'a pas exposé au regard de tout le monde. Ils vont l'exposer, ils vont la juger publiquement. Il n'y a pas de compassion. Il n'y a rien. Elle a fauté, elle doit être punie. Personne qui vient la voir en se disant « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Personne. Personne qui essaye de se poser des questions, mais si elle l'a fait, elle a peut-être des raisons. Non, ne pensez pas que je fais un plaidoyer pour le péché. Ne pensez pas que je suis en train de plaider pour le péché afin qu'on le banalise. Loin de là. Mais je trouve que parfois il y a de l'hypocrisie, même dans ce que nous sommes amenés à dire. Il y a certains péchés, voire l'adultère, où évidemment on attrape celui qui l'a commis, mais on n'examine jamais ce qui l'a amené à le faire. Vous savez, lorsqu'un homme boit et vous bat toute la journée, il suffit de peu pour que vous tombiez dans les bras d'un autre. Alors évidemment, c'est un péché. Vous n'avez pas le droit de le faire. Et je ne le justifie pas. Mais à quelque part, l'autre a aussi sa part de responsabilité. Ne pensez pas que je dis que chaque fois qu'il y a adultère, par exemple, c'est l'exemple que j'ai sous les yeux, nous pourrions prendre bien d'autres choses. Ne pensez pas que chaque fois qu'il y a adultère, c'est parce que le conjoint s'est mal comporté. Loin de moi cette pensée. Très souvent, ils sont déjà suffisamment culpabilisés en se disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça m'arrive ?» Mais parfois, il vaudrait la peine de s'arrêter, de prendre du temps, d'examiner. Oui, alors il a péché, mais de l'autre côté, peut-être que il a aussi été, de par les circonstances, poussé à le faire. Personne s'est occupé de cela. Non, on s'apprête à lui jeter des pierres, à la tuer et à se présenter comme, eh bien, ceux qui sont bien pensants, ceux qui sont droits devant Dieu. Nous exécutons la volonté de Dieu, nous exécutons ce qui est juste. Nous accomplissons la loi. Je suis convaincu que les pharisiens devaient se sentir très spirituels. Ils étaient en train de laminer cette femme. Mais ils devaient se sentir spirituels. Nous respectons la loi de Moïse. Nous exécutons la loi de Moïse. Nous n'avons rien à nous reprocher. Nous sommes droits. Nous sommes saints. Nous ceci. Nous cela. Permettez-moi quelques instants de déplacer cette scène d'Israël dans ce lieu. Permettez-moi peut-être un seul instant de nous poser la question, que se passerait-il si c'est ici que cela arrivait? Une sœur est prise en flagrant délit d'adultère. Non, frère, mais non, on ne la livrerait pas à tout le monde. Non, on en parlerait. Tu te rends compte? Tu as entendu? Gertrude. Je vais prendre ce nom-là, comme ça je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas trop de monde qui s'appelle comme ça. Non, mais tu te rends compte, Gertrude, ce qu'elle a fait? Ou alors, non, on a d'autres méthodes. Écoutez bien, on a d'autres méthodes. On informe par la prière. Seigneur, nous sommes là devant toi, en ta présence. Tu vois le drame qui vient d'arriver, Gertrude qui a trompé son mari. Combien de fois la prière, ça me met en colère, hein? Combien de fois la prière est détournée de son objectif qui n'a d'autre sens que de nous adresser à Dieu? Combien de fois a-t-on récupéré la prière pour en faire une source d'information, voire pour dire ce qu'on pense? Seigneur, tu vois, dans l'église, je trouve ceci, je trouve cela. Ça, c'est pas une prière. C'est un partage d'opinion. Et je dirais, c'est un péché. Parce que vous manipulez. Vous ne priez pas, vous manipulez. Nous n'avons pas le droit de manipuler par la prière. La prière nous a été donnée pour nous adresser à Dieu, et non pas pour, eh bien, faire connaître aux autres les difficultés des uns et des autres, ou notre pensée même. Vous savez, c'est ce petit garçon, je vous l'ai déjà dit, qui prie dans sa chambre. Il prie. Seigneur! Seigneur, pour Noël, je veux un VTT. Seigneur, je veux qu'il soit bleu. De la marque Peugeot. Seigneur! Puis sa maman, elle entend ce hurlement, elle rentre dans la chambre, elle dit, mais Gaston, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je prie. Elle dit, mais arrête, il n'est pas sourd, le Seigneur. Il dit, non, le Seigneur, pas, mais grand-père, oui. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. La prière devient le moyen par lequel nous nous justifions, ou nous informons, ou nous manipulons. Alors on lui aurait pas jeté de pierre, non. Non, mais il y a des mots qui font aussi mal que des cailloux. Il y a des regards qui font aussi mal que des pierres. Et puis à la fin, certainement qu'on l'aurait isolé par discipline. Par mesure de discipline, il faut l'isoler. Voyez-vous, Jésus arrive dans tout cela. Et lui va leur manifester ce qu'est le pardon. D'abord, il va les ramener à eux-mêmes. Que dit-il aux pharisiens ? Jean 8, 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Il les ramène à se considérer eux-mêmes. Il les ramène à se rappeler eux-mêmes ce qu'ils sont. La grâce qui leur a été accordée, il leur le rappelle. Mon frère, nous jugeons souvent facilement. Il m'est arrivé d'aller parfois en prison visiter certaines personnes. Ça fait un bout de temps maintenant que j'y étais pas, puisque nous avons la grâce d'avoir des visiteurs de prison dans l'église, et je bénis ces frères, merci pour votre travail et merci pour votre consécration. Mais parfois je me disais, mais quelle est la différence entre moi qui suis de ce côté des barreaux et lui qui est de l'autre côté? Je vais vous dire, la seule différence, c'est la grâce que j'ai eue en Jésus-Christ. C'est la seule. Je suis parfois en face de personnes qui me racontent des drames et qui me racontent à quel point elles ont mal réagi. Et dans mon esprit, je me dis, mais Seigneur, si j'étais né au même endroit, dans les mêmes conditions, avec les mêmes pressions, tout en m'appelant Samuel, est-ce que j'aurais été différent? Et là, au lieu de juger, tout d'un coup, tu as envie d'aimer, tu as envie d'aider. Première chose que Jésus fait, il les ramène à eux-mêmes. Avant de juger, considère-toi toi-même. Rappelle-toi, souviens-toi d'où tu es tombé, nous est-il dit dans le livre de l'Apocalypse. Souviens-toi d'où tu viens toi-même. Je suis parfois surpris de voir à quel point des hommes au passé chargé ont pu devenir ensuite, en tant que chrétien, dur, légaliste. Il n'y avait plus de place pour la compassion. Souvenons-nous d'où nous venons, qui nous avons été. Il nous a aimés comme nous étions. Il nous a encouragés comme nous étions. Et puis, à la femme, il dit quelque chose de très fort. Remettez-vous dans le contexte. On est là, au milieu des Juifs. Cette femme est tombée, elle a péché. Et c'est un flagrant délit, c'est sûr. C'est pas, on pense que, c'est sûr, même si on sent qu'il y a de la magouille dans leur affaire, hein. Jésus lui dit, ne voyant plus la femme, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je vais vous dire ce qui m'est déjà arrivé. dans des situations difficiles où des personnes avaient gravement péché, étaient venues pour demander pardon, je leur ai simplement dit cela parce que je me souvenais de ce que Jésus avait fait. Et puis on m'en a voulu. On m'a dit, ça y est, on traite le péché avec légèreté dans l'Église. On m'a accusé en me disant, tu aurais dû être beaucoup plus ferme. Tu aurais dû mettre cette personne sous discipline. Tu aurais dû faire ceci, faire cela. Tout simplement parce qu'on règle des comptes à ce moment-là. Frères et sœurs, combien de fois n'avons-nous pas tendance à être durs? Combien de fois n'avons-nous pas tendance à être, eh bien, intransigeants quand il s'agit de l'autre, mais tellement compatissants quand il s'agit de nous? Jésus est en train de faire là quelque chose d'inhabituel. Va et ne pêche plus! Voilà ce qu'il lui dit. Maintenant, je précise. Il n'a pas commencé à prier pour elle en lui disant, eh bien, au nom de Jésus, tout esprit d'adultère, quitte-la. Rien de tout ça. Il la met devant sa responsabilité. Quand nous péchons, c'est pas tout le temps le diable. Même s'il est à l'origine de la tentation, nous prenons des décisions, nous faisons des choix, nous avons des responsabilités. Jésus la place devant sa responsabilité et lui dit « Va, pêche plus !» C'est donc qu'elle était capable de partir et de ne plus pécher. Voilà une femme détruite, restaurée en un instant par le pardon divin. En un instant, une femme qui devait mourir va se relever. Alors vous allez me dire « Mes frères, chez nous, personne ne meurt physiquement. » Non, mais spirituellement. Des hommes et des femmes que l'on a traités sans égard, durement, qui se sont découragés, qui n'ont plus le courage de repartir, qui n'ont plus la force. Et puis soudain, ils ont perdu la foi. Alors évidemment, on dira encore, mais tu vois maintenant, il a perdu en plus de ça la foi. Mais nous y avons contribué par notre dureté. Pardonner. Pardonner, c'est aimer. Écoutez ce que dit Jésus. Luc 17, 3 à 5. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Vous vous rendez compte? 7 fois dans une journée? Dominique, si je viens 7 fois, sept fois dans une journée. Et puis Jésus va plus loin. Il nous invite à pardonner 70 fois. 7 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait un calcul, c'est 1 fois toutes les 3 minutes. Moi j'espère qu'on ne vous offense pas toutes les 3 minutes. Hein. En d'autres mots, le pardon c'est un style de vie. Le pardon, c'est quelque chose que je m'applique. On m'offense, je pardonne. Mais, écoutez bien, Jésus donne une procédure à suivre. Et je vais quand même en parler. Parce que si j'ai parlé du pardon jusque-là de cette manière-là, cela ne veut pas dire que le péché doit être traité à la légère. Il dit, dans Matthieu 18, « Si ton frère a péché, va et reprends-le. » Entre toi et lui seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voilà que Jésus nous indique la voie à suivre. Comment agir? Comment faire? Premièrement, reprends-le entre toi et lui seul. Si ton frère a péché, quel que soit le péché, que cela te concerne directement ou alors tu sais qu'il est en train de filer du mauvais coton, va le voir entre toi et lui seul, que ça se règle entre vous deux. Il n'est pas dit, fais le tour des frères pour les informer. Règle-le entre toi et lui seul. Pose-lui la question, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment en es-tu arrivé là? Et la Bible dit, et s'il se repent, il lui sera pardonner. Et là, j'arrive à la responsabilité de l'offenseur, la repentance. Parce que là aussi, nous avons un concept du pardon parfois assez étrange. Finalement, ne peut bénéficier du pardon que celui qui se repent. Vous ne pouvez pas pardonner à quelqu'un qui ne se repent pas. Cela ne veut rien dire. S'il ne se repent pas, il ne bénéficie pas de la grâce du pardon. Souvent nous disons, je lui pardonne, mais il continue, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est la grâce que vous accordez parce qu'il y a eu repentance. Jésus dira, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. À la croix, Jésus est mort pour tous les hommes. Chacun d'entre nous ici à la croix peut recevoir le pardon dans la mesure où il se repent. Il y a des hommes chaque jour, des femmes chaque jour, qui partent dans l'éternité loin de Dieu. L'œuvre de la croix et le pardon accompli à la croix n'a pas eu d'effet d'eux parce qu'ils ne se sont jamais repentis et ont persévéré dans leur péché. Il doit donc y avoir repentance et la repentance est capitale, capitale pour celui qui a subi le péché. Pourquoi ? Parce qu'elle restaure la vérité et elle le rétablit dans son droit. Lorsque celui qui se repent arrive en disant « Je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait. Je réalise à quel point je t'ai fait souffrir. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir combien maintenant que j'ai conscience du mal que je t'ai fait. Combien je regrette. Que puis-je faire ? Que puis-je faire pour que tu m'offres ton pardon ? Que puis-je faire pour que la communion soit rétablie ? Mais quand vous avez affaire à quelqu'un comme ça, vous avez le désir d'entrer dans cette démarche. Cependant, quand vous avez affaire à un espèce de coq très fier, qui non seulement a péché, mais qui ne regrette pas ce qu'il a fait, que voulez-vous lui pardonner ? Un de mes frères viendrait à s'éloigner. Premier rôle, je vais le voir. On se voit tout seul. Imaginons que ce soit moi. Voilà, hein ? Allez. Non, pas moi. Ouais, pas moi. Mais je préfère me prendre moi, hein, comme ça. Ben, imaginez, allez, un d'entre vous apprend que Samuel, de temps en temps, hop, il tire sur un bon pétard. Parce que ça le déstresse, parce que les soucis de l'église, puis se fait des gros comme des arbres. Personne ne le sait, mais vous le savez. Georges, par exemple. Georges me rencontre un jour, il me dit « Ça va, Sam ?»« Ouais, cool. Ouah, l'onction qu'il y a là, et ouah. » Puis Georges se rend compte, ouah, oh là, oh, 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 oh là là, il fume pas la moquette, lui, hein. Bon, il dit rien à personne. Il se met devant Dieu, il dit « Seigneur, mon pasteur a un problème. Mon pasteur a un problème, il se prend pour une loco. » Motive, hein. Il vient me voir, entre moi et lui seul. Il dit, Sam, qu'est-ce qui t'arrive ? Deux possibilités. Je m'effondre en larmes. J'en peux plus. Je fais un burn-out. Je suis vidé, j'en peux plus. J'ai tellement été pris par les affaires, j'ai plus le temps de prier, j'ai plus ceci, j'en peux plus, je craque, genre. Genre, le seul truc qui m'aide, c'est de tirer un coup, là. Georges, il est en train de faire comme ça. Même pas qu'il se l'imagine. Hein ? On dit pas ça ? Qu'est-ce que j'ai dit ? L'amour soupçonne pas le mal, Dominique. Qu'est-ce que Georges va faire ? Il me voit craquer, il me voit pleurer. Il dit, Sam, ok, viens, on prend du temps ensemble. Et il va commencer à m'aider. Il va commencer à m'encourager. Il va me dire maintenant, régulièrement, on va se réunir pour prier. Régulièrement, on va prendre du temps ensemble. Et voilà que mon frère me relève. Et voilà que mon frère me pardonne mon péché. Je me repens. Je dis, Georges, merci pour la grâce que tu me fais en m'aidant et en me pardonnant ce que j'ai fait. Mon péché est effacé, je me relève. Personne n'en saura jamais rien. Un serviteur de Dieu est sauvé. Maintenant, Georges vient Il me dit, Sam, ça, tu peux pas. T'as entendu parler de la liberté des enfants de Dieu? Mais Sam, tu peux pas. Georges, c'est donc pas grave, de temps en temps. Juste pour me décontracter, calmer les nerfs. Là, Georges, au bout d'un moment, il va insister, il va... Mais voyant que je persévère dans mon péché, il va s'adresser à deux frères, trois frères. Il va leur dire, écoutez, j'ai un problème, venez, on va essayer d'aider Sam, il va chercher Schmerber. Puis ils vont venir à trois avec Oser. Ils vont essayer de me convaincre. Et moi, je dis, ouais, j'en ai rien à faire, moi, de ce que vous me dites. Moi, je continue comme ça, et puis ça ne m'empêche pas de louer. D'ailleurs, plus je fume, mieux je loue, alors, hein. À ce moment-là, les frères sont en devoir de m'arrêter de le dire à l'église parce que je ne me repens pas. Mais je bénis Dieu parce qu'en règle générale, 80% des cas s'arrêtent dans la première rencontre. Frères et sœurs, s'il persiste, dis-le publiquement. Mais l'apôtre Paul nous rappelle constamment que c'est avec beaucoup d'humilité, d'amour que nous devons faire les choses. Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. L'apôtre Paul dit quelque chose de surprenant. Il dira dans 2 Corinthiens 2, « Si quelqu'un était une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. » Dans ce texte, les théologiens pensent que Paul parle d'un homme. Un homme qui le cite dans 1 Corinthiens 5, qui avait comme femme la femme de son père, pour lequel homme il exige une sanction, pour lequel homme il demande à l'église des Corinthiens, comment vous vous croyez spirituel et vous laissez une telle situation, vous le laissez vivre comme ça dans le péché, il vit avec la femme de son père, quel scandale! Il leur demande de le reprendre et manifestement et apparemment cet homme s'est repenti. Et là, maintenant, il leur dit, ne l'accablez pas, pardonnez-le. Pardonnez, si vous lui pardonnez, moi je lui pardonne aussi. Pardonnez-lui. Ce que vous avez fait à son égard a fait son chemin en lui. Il s'est repenti, il est revenu de son péché. Maintenant, rétablissez-le, relevez-le, encouragez-le. Quand nous pardonnons, que se passe-t-il ? Jésus dit, et c'est intéressant parce que c'est dans le texte que nous venons de lire précédemment, Matthieu 18:18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. » Souvent j'entends prier, je lis, je délie, je lis, je délie, je relis, je délie. Puis j'ai repris ce texte. D'abord, il n'est pas question de démons ici. Il n'est pas question d'esprit méchant. Jésus dit dans Jean 20, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Je vais vous donner la traduction littérale. La traduction littérale dit la chose suivante. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur sont déjà pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur sont encore retenus. En fait, quand nous délions quelqu'un, nous le délions par le pardon que nous lui accordons, mais ce pardon lui a déjà été accordé suite à sa repentance. Nous ne sommes qu'en train de faire sur la terre ce qui est déjà fait au ciel. Ce n'est pas nous qui décidons de ce qui se passe au ciel, mais c'est nous qui, et bien sûr la terre, confirmons l'œuvre qui a déjà été faite. Lorsque je pardonne un frère, je le délie, Je le délie de son péché. Je le délie également des conséquences de son péché. Parce que par sa repentance, ayant reçu le pardon de Dieu, il est déjà libéré de son péché et des conséquences de son péché. Cependant, lorsqu'il ne se repent pas, je ne peux pas considérer que je lui pardonne. Il ne se repent pas. Il persévère dans sa voie. Je peux le bénir. La Bible dit « Bénissez même vos ennemis, ceux qui vous maudissent. » Je peux le bénir. Je vais ne pas le haïr. Je vais ne pas faire toutes ces choses qui sont un péché en soi. Mais je ne peux que pardonner le jour où il se détourne de son péché. Et quand je pardonne, je le restaure à ce moment-là. Je le rétablis. Quand je pardonne, je le délie. Quand je ne pardonne pas, je le tiens lié, je le tiens captif. Mon frère, ma sœur, nous délions quand nous pardonnons. Et la Bible dit que s'il se repent, nous devons lui pardonner. Et s'il vient 7 fois dans une même journée, nous devons lui pardonner. Cependant, il est évident que la difficulté du pardon sera toujours à la hauteur du mal qu'on vous a fait, de la souffrance qui est la vôtre. Vous savez, si on vous marche juste sur les pieds, c'est facile de pardonner. Si on vous prend votre femme, c'est autre chose. Si on vous prend votre mari, c'est autre chose. Cependant, s'il y a repentance, nous sommes encouragés, invités à pardonner. Invités à relever. Mon frère, ma sœur, ce matin, lier, c'est pas seulement dire je lie. Délier, c'est pas seulement dire je délie. Délier, c'est un acte beaucoup plus profond dans lequel je vais te rétablir. Je vais te rétablir en te pardonnant. Et je voudrais maintenant, vous donner une image de manière à ce que cela vous reste peut-être dans l'esprit, ce qu'implique le pardon. C'est mon deuxième point. Je terminerai à l'heure. Vous allez voir. Non, j'en vois déjà qui sont prêts à me pardonner le dépassement. Dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 32, il est parlé d'un père qui a 2 fils. Vous connaissez tous cette histoire. Qui la connaît? Levez voir la main. Bon, ça me rassure quand même, hein? Je vais m'attarder sur le fils qui quitte la maison en demandant tous ses biens. Lui, il demande l'héritage. Le père est encore sur pied, hein. Et il demande l'héritage comme si c'était un dû. Saviez-vous que l'héritage n'est pas un dû? C'est une grâce. Hello. L'héritage, c'est pas un dû. Moi, je vois souvent des enfants qui disent, mon père doit me donner. Il doit rien me donner du tout. S'il te donne, c'est parce qu'il t'aime. S'il te donne, c'est par grâce. Voilà que ce jeune homme vient et de manière très vindicative demande tous ses biens. Et puis vous connaissez l'histoire. L'histoire, c'est qu'il dilapide les biens. Au milieu des prostituées, il liquide la fortune de son père avant l'heure. Il n'écoute personne. Je suis sûr que sur son chemin, plusieurs ont dû lui dire « Mais arrête, retourne chez le père. » Non, non, personne. Il n'écoute personne. La seule prédication qu'il a entendue, c'était celle des cochons. C'est les seuls qui ont réussi à lui faire trouver raison. Lorsque là, enfin arrivé au bout du bout, dans le trou, il commence à se dire « Mais dans la maison de mon père, n'avais-je pas tout ce que j'avais besoin ?» Et là commence la conviction de péché. Et là commence la repentance. Et là, il commence à dire, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. On est encore dans la phase de ce qu'on se dit. Puis arrive le moment où le fils arrive, il vient. « Il est en guenille. Il schmoule de loin. Voilà dans quel état il vient. Il pue le cochon. Vous savez, l'image des cochons est forte puisqu'elle s'adresse à des juifs. Hello. On pouvait pas prendre pire. Il sent mauvais. Mais là, il invoque la grâce de son père. Ça fait plaisir, Jonathan. Hein. Oh, ça fait plaisir. C'est tellement rare. Je dois dire que je suis en train de vivre un grand moment, là. Un grand moment. Première chose, et c'est ça le pardon, regarde bien. Première chose, le fils arrive, le père le prend. Et d'abord, tout puant qu'il est, tout en guenille qu'il est. C'est mon bleu de travail, ça? Je sens que je vais avoir une vraie raison de pardonner maintenant. Hein. Première des choses, il prend son fils, il l'accueille. Première des choses, quand le pécheur vient, il le serre dans ses bras. Ça, c'est le pécheur qui revient. Première chose, c'est pas un regard de travers. C'est pas un jugement. Frère, je suis content de te revoir. Sœur, je suis content de te revoir. C'est bien, c'est pratique, là, j'ai les deux, j'ai le frère et la sœur, là, aujourd'hui. Je suis content de te revoir. C'est la première des choses. C'est la restauration. Deuxième. Il nous a dit, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Deuxième chose dans le pardon, un regard neuf. Un nouveau regard. Pour l'instant, c'est un fils en guenille qui sent mauvais. Le fils prend le père et le père prend le fils. L'affection est là, il n'y a pas de jugement. Ce n'était pas « remets-toi à genoux comme tout à l'heure ». On passe là pour le bleu, alors là... C'était pas « ah, tu reviens maintenant ?» Maintenant qu'il est dans la bouse jusqu'ici, ça y est, il revient. C'est souvent comme ça que les chrétiens pardonnent. « Ah, tu reviens ?»« Hein ? Je te l'avais dit ?» Qu'est-ce que je t'avais dit? Mais, hein? Comme ta mère, hein? Non. Hein? Ah ouais. C'est comme ça qu'on est. Mais ça, c'est pas le père. C'est pas le pardon. Le pardon n'est pas en train d'essayer de faire sentir à l'autre quelle grâce je te fais. Vous savez, souvent, on veut lui faire sentir. Ben là, je te fais grâce, vraiment, hein? Tu vas me devoir la reconnaissance tout le restant de ta vie, hein? À partir de ce jour-là, tu peux plus cramper à côté de moi. Hein? Et sois content que je te garde à côté de moi. Non. La grâce, c'est je te prends. Et puis, c'est un regard neuf. Il dit, cherchez la plus belle robe. Cherchez la plus belle robe. Normalement, il va changer, d'accord? Aujourd'hui, parce qu'il faut aller plus vite. Quand Jésus nous pardonne, il enlève nos péchés. Il les enlève.
Déjà, tu étais au coiffeur?
C'est Madj Elaba du Maroc. Je l'ai reçu là-bas. Qu'est-ce que le pardon? C'est un autre regard. Je vois plus le fils en guenille. Je vois plus son péché. Je vois plus tout ça. Je vois un vêtement neuf. Je vois mon fils. Je vois un fils rétabli. Je vois un fils avec lequel je vais refaire du chemin. J'ai l'impression qu'il se fiche un peu de moi, mais ça fait rien. Hein, ça... Frère, sœur, le pardon, c'est un autre regard. Je le vois plus avec ses bêtises, je le vois plus avec son péché, je le vois plus avec son adultère, même si je considère que c'est difficile. Même si je considère que l'offenseur doit se repentir, et c'est ce qui s'est passé. Il s'est repenti d'abord, et sa repentance rend d'autant plus la démarche facile. Un regard neuf. Lorsque celui qui est tombé, qui a péché, arrive au milieu de nous, a-t-il droit à un regard neuf après sa repentance? A-t-il droit d'espérer pouvoir retrouver sa place au milieu du peuple de Dieu? A-t-il le droit de s'imaginer venir au dimanche sans qu'on le regarde comme ça de travers? A-t-il le droit de penser qu'il peut être restauré, réintroduit dans la famille de Dieu et traité comme un fils? Ça, c'est le pardon. Et il ne s'arrête pas là. Il lui donne un anneau neuf. Un anneau neuf. En d'autres mots, il refait alliance avec lui. Et à l'époque, écoutez bien, à l'époque, la bague qu'avait le maître de maison portait le sceau dessus qu'il utilisait pour sceller les enveloppes sur lesquelles, dans lesquelles il écrivait ses ordres. Il y avait le sceau de la maison. Ce n'est pas seulement une nouvelle alliance. Bon, un jour quelqu'un d'autre le fera. Hein? C'est pas seulement une nouvelle alliance. C'est je te rétablis dans ton autorité. Je te rétablis dans ta fonction. Je te rétablis, je te refais confiance. Je ne vais pas tout le temps me promener avec toi en me disant, et s'il me refait un coup comme ça? Je te rétablis. Tu vas toi maintenant pouvoir exercer l'autorité. Scellé à ma place. On saura que le Fils est réintégré. Et puis la Bible nous dit, nous pourrions développer bien sûr sur l'alliance tout ce que cela représente. Ce n'était pas le but ce matin, je voulais vous donner une simple image, ce que veut dire pardonner. Et puis la Bible nous dit qu'il lui donna des chaussures neuves. C'est les babouches toutes neuves que j'ai ramenées. Eh bien, on dirait que t'es là-bas au pays, hein? Les serviteurs n'avaient pas de sandales. Les serviteurs allaient pieds nus. Seul le maître et les membres de sa famille avaient des chaussures. Il est en train de lui dire, fils, nous avons été séparés dans notre marche par ton péché, mais le pardon te restaure et nous allons marcher ensemble. Et nous allons marcher ensemble. D'un même pas, je ne te verrai plus jamais au travers de ton péché. Ce que tu as fait, tu l'as fait, mais c'est pardonné, c'est oublié, c'est effacé. Le fils lui avait dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, fais de moi un serviteur. En fait, il est en train de lui dire ce qu'il mérite. En réalité, c'est ça, ce qu'il mérite réellement. C'est être destitué. S'il méritait, c'est qu'on lui enlève sa fonction, qu'on lui donne plus son autorité. Ça, il le méritait. Mais la grâce du pardon le restaure dans son droit. Et un nouveau chemin commence avec lui. Pardonner, c'est ça. C'est ce que Jésus t'a fait. C'est ce que Jésus m'a fait. J'étais dans les guenilles comme lui. Son sang est venu et la Bible dit non pas qu'il a couvert mon péché, mais qu'il a ôté mon péché. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, mais maintenant il te dit, la grâce qui t'a été accordée, accorde-la. Si ton frère se repent, pardonne-lui. Si tu sais que ton frère a péché, va le trouver. Règle-le entre toi et lui seul. Si ta sœur a chuté, règle-le. Tu auras, nous dit l'Écriture, si tu le fais, ramener un homme de la voie sur laquelle il se perdait. Ce matin, frères et sœurs, mon rêve, c'est que l'Église soit un lieu de pardon, un lieu de restauration, un lieu de réconciliation, un lieu de relèvement, un lieu où non seulement le pécheur qui arrive reçoit le pardon de Dieu, mais où le chrétien qui a chuté peut espérer être renouvelé et relevé un jour. Un lieu dans lequel le péché est traité sérieusement, mais en même temps dans lequel la grâce surabonde. Il ne s'agit pas d'amoindrir les choses. Un lieu dans lequel la souffrance de celui qui a subi, vécu le péché est prise en compte. Où il y a un accompagnement pour sa guérison. Où la repentance est vraie, réelle, parce que c'est la vraie repentance qui engendre la vraie guérison chez l'autre. Ce matin, comme ce fils retrouvé, il y a dans ce lieu des hommes et des femmes qui ont besoin d'être restaurés. Restaurés, se sentir à la maison, ne plus se sentir jugé, regardé. Fermons nos yeux un instant. Merci Jonathan, merci beaucoup. Pendant que mon frère va au clavier, je ne vais pas vous demander de vous lever. Non, non. C'est entre vous et Dieu maintenant. Et je vais m'adresser à deux catégories de personnes. Deux catégories de frères et de sœurs. Ceux qui peut-être ce matin doivent pardonner une offense qui leur a été faite. L'offenseur s'est repenti. Vous avez tellement de mal. Je ne veux pas vous jeter la pierre ni vous accuser, loin de là. Mais j'aimerais vous dire que le pardon rend libre. Le pardon guérit. Ce matin, je ne voudrais pas que vous restiez dans votre souffrance, dans votre détresse. Ce que vous avez subi est certainement terrible. Et c'est avec beaucoup de respect de votre souffrance et beaucoup de compassion que je vous parle. Mais je vais vous dire, demeurez dans votre souffrance, demeurez dans votre amertume. C'est la meilleure garantie de rester malheureux, de rester rongé par le souvenir de ce qui s'est passé. C'est la meilleure garantie de vous détruire le présent et l'avenir. Le pardon est la seule puissance qui non seulement libère, mais vous permet de tourner la page. Le Père tourna la page de l'histoire du Fils. Et il s'écriera avec joie. Ce Fils qui était perdu est revenu à la vie. Il fit une fête. Parce que c'est une fête quand un pécheur se repent. C'est une fête lorsqu'un enfant de la maison revient, s'humilie, change. C'est une fête. Ce matin, mon frère, ma sœur, si tu lui demandes de la force de pardonner, il te la donnera. Il y a ceux qui sont les offenseurs qui ont fait souffrir leur épouse ou leur mari, un frère ou une sœur au travers de ce qu'ils lui ont dit. Un autre membre peut-être de la famille, il y a tant de situations différentes et ils savent ce matin combien ils ont besoin de ce regard bienveillant. Je vais vous dire, si vous désirez cette bienveillance, que votre repentance soit profonde et vraie. Et dans cette profonde repentance, il y a la grâce du pardon. Vous serez alors vous aussi libéré, délié. Père, tu es là ce matin. Tu es là et je te demande de bénir chaque frère, chaque sœur ici dans ce lieu. Je te demande de venir à leur secours, à notre secours, parce que nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Aujourd'hui, peut-être tout va bien, mais et si demain je devais être offensé ? Aide-moi, Seigneur, à accorder le pardon à celui qui me le demande. Seigneur, ce matin, guéris ceux qui ont été offensés. Relève-les. Permets-leur de vivre une vie dans laquelle ils voient ta gloire, ta paix, ta joie, ton repos. Que ton nom soit béni. Levons-nous un instant ensemble et terminons en chantant « Il m'a pardonné ». Il m'a pardonné ce matin. Et si tu as quelque chose contre un frère, va et trouve-le entre toi et lui seul. Et si tu savais quelque chose, n'en parle à personne si ce n'est à celui qui est concerné. Notre premier but, c'est la restauration, le relèvement, que celui qui a jamais péché jette le premier, la première pierre. Il m'a pardonné, il m'a pardonné, Jésus m'a pardonné, il m'a pardonné. Il m'a pardonné, Jésus m'a pardonné. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, amen. Nous rappeler que tu nous as aimés avant même que nous te connaissions. Nous voulons nous rappeler que tu t'es donné avant même que nous nous soyons repentis. Mais nous voulons également nous rappeler que le jour où nous avons reconnu nos péchés, que le jour où nous nous sommes détournés de ces derniers, nous avons reconnu en toi le Sauveur. Tu nous as pardonné, tu nous as fait grâce. Nous étions tous coupables. Il n'y en a pas un qui soit meilleur qu'un autre. Nous avons tous péché et nous méritions tous la condamnation. Mais tu nous as touchés. Tu as entendu notre repentance. Tu nous as lavés, tu nous as purifiés, tu nous as restaurés. Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Quel privilège! Ô Père, permets qu'entre enfants de Dieu, nous vivions le pardon. Permets qu'entre enfants de Dieu, notre regard sur celui qui est tombé change. Qu'entre enfants de Dieu, nous soyons capables de redonner notre confiance au travers d'une nouvelle alliance. Qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons capables de donner à notre frère à nouveau de nouvelles chaussures pour faire la marche avec lui. Et si nous avons pendant un temps été séparés à cause des affres du péché, alors je te bénis parce que nous pouvons maintenant être réconciliés, unis. Et marcher ensemble à cause de la grâce du pardon. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Donne-nous de vivre le pardon. Journellement, nous avons besoin de toi pour cela. À toi la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.